de temps habitez-vous à Orléans, monsieur?
1938-31 ans.
Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans?
Ma profession, je suis instituteur. J'étais instituteur, je suis en retraite.
Oui.
Et j'ai un poste dans la périphérie, banlieue d'Orléans. Et à Orléans même, je me suis venu qu'en 1945, après la guerre, après être resté 5 années en captivité.
Ah bon? Et vous vous plaisez à Orléans?
Oui, je me plais à Orléans.
Et pourquoi spécialement à Orléans?
Parce que j'y ai des relations, parce que
oui, vous avez des
je connais, j'y ai la famille aussi.
Vous avez de la famille?
Je suis originaire du Loiret.
Ah bon?
Oui. Dans l'enseignement, il est rare qu'on s'expatrie, si je puis dire. On reste toujours dans le même département.
Oui, oui.
Souvent.
Et est-ce que vous comptez rester à Orléans?
Oh, bien sûr, maintenant.
Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous me l'avez déjà dit. Vous
je suis instituteur retraité et depuis 7 ans. Et je continue à faire des cours à la chambre de commerce, aux cours professionnels, des cours commerciaux pour des élèves qui passeront le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle.
Oui. Et vous faites ça pendant la journée?
Je fais cela.
Ou le soir?
12 heures. Non, dans la journée.
Oui.
12 heures par semaine, le lundi toute la journée, le mardi matin.
Est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de travail pour vous?
Ah, justement. Il faudrait alors prendre la semaine. La journée du lundi est pour moi une journée chargée maintenant.
Oui.
Je travaille, je fais des cours de 8h à midi.
Oui,
et
de 4h.
Oui, de 14h à 18h. Le mardi matin, de 8h à midi encore.
Oui.
Et les cours sont terminés pour le reste de la semaine.
Ah,
alors ensuite, à la maison, pour ma profession,
oui.
Je prépare la classe, je corrige les devoirs que je donne aux élèves.
Ah, oui,
et je me prépare pour la semaine suivante.
Oui.
Le reste du temps, je suis retraité, je m'occupe à la maison, je vais jouer au bridge assez souvent.
Et qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre travail? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous?
Je ne saisis pas très bien la question. Qu'est-ce qui est le plus important?
Oui, votre travail d'instituteur.
Ah oui.
Vous aimez le contact avec les jeunes ou...
Ah oui. J'aime enseigner, j'ai toujours enseigné,
pour
des petits avant en tant qu'instituteur. Maintenant, mes élèves sont de grandes jeunes filles de 15 à 18 ans.
Oui. Et si vous n'étiez pas instituteur, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Vous avez toujours voulu être instituteur?
Oui, bien sûr.
Oh. Vous n'avez pas de désir caché ou...
Non, non.
Non?
Non.
Toujours, depuis le plus jeune âge?
J'aurais, je crois, pu faire également... Un commerçant peut-être, ou je ne sais pas, peut-être.
Oui. De plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que vous êtes pour ou contre?
Si ça ne nuit pas au ménage, je suis pour. Il faudrait à ce moment-là, pour être contre, il faudrait que le mari gagne assez pour que la famille puisse vivre normalement.
Oui. Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre?
Je l'ai dit déjà tout à l'heure, je joue au bridge assez souvent.
Oui.
Et j'ai une résidence secondaire à laquelle je me rends assez souvent également.
C'est
oui.
Où, ça?
J'avais une petite, un petit pied-à-terre à Olivet au bord de Loiret,
oui.
Que j'ai vendu parce que la route, la déviation fait beaucoup de bruit maintenant. Alors je viens de faire construire une maison à l'est d'Orléans, à côté de Combleu, de Chessy.
Ah bon, et vous y passez les week-ends, les samedis
et
dimanches?
Nous y allons. Elle finit seulement maintenant d'être installée.
Ah bon?
Nous allons y passer sans doute beaucoup de temps pendant l'été.
Ah oui, c'est très agréable.
Enfin, j'y vais assez souvent.
Oui, oui.
Surtout quand il fait beau, bien sûr.
Oui. Et les soirs, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez les cours ou vous regardez la télévision?
Oui, oui, les deux. Préparer les cours, je regarde la télévision, oui, assez souvent.
Comment avez-vous passé dimanche dernier?
Dimanche dernier, je ne l'ai pas très bien passé. J'ai été arrêté. Je suis resté à l'appartement pendant 4 jours parce que je ne pouvais difficilement marcher.
Ah, vous étiez malade.
J'avais mal aux genoux. Alors, je suis tout de même descendu et je suis allé justement à cette maison conduite par mon fils.
Ah bon?
Et c'est tout ce que j'ai fait.
Et que ferez-vous pendant les vacances d'été? Est-ce que vous avez des projets?
Pendant les vacances d'été, Je suis caravanier depuis longtemps déjà, et je campe par conséquent. Nous campons. Alors l'été prochain, rien n'est prévu, puisque nous n'avons pas besoin de retenir à l'avance, ni hôtel, ni location. Alors je pense que si notre santé nous le permet, parce que nous ne sommes tout de même plus jeunes, nous pourrons continuer encore cette année au moins à camper.
Oui, oui.
Sinon, ben, nous louerions probablement un meublé, comme nous l'avons fait plusieurs fois pendant les vacances de Pâques, où nous louions un meublé à Megève, dans les Alpes, et l'an dernier à Saint-Raphaël, au bord de la Méditerranée, surtout pour notre petite fille qui a 11 ans, vient avec nous.
Elle vient avec vous. Oui,
voilà.
Elle est toujours en vacances avec vous?
Toujours. Pour les vacances de Pâques, elle y venait régulièrement.
Oui.
Et pour les grandes vacances, elle vient avec nous en camping pendant le temps où nous restons, 3 semaines ou 1 mois, et ensuite avec ses parents, qui eux n'ont pas autant de vacances que nous. Son père est commerçant, et alors il vient une quinzaine de jours, lui aussi, dans notre caravane.
C'est formidable pour elle.
C'est bien, oui, c'est bien.
Deux sortes différentes de vacances, en général. Si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, que feriez-vous de ce temps libre?
Un retraité en a déjà pas mal du temps libre.
C'est vrai.
Alors, en avoir 2 heures de plus, je pourrais en avoir 2 heures de plus en me couchant 2 heures plus tard.
Oui.
Je ne me couche pas très tard, par conséquent, je ne recherche pas à avoir 2 heures de plus.
Non, et de toute façon, vous avez autant de temps libre que vous voulez.
Oui, bien sûr, ou presque.
Oui. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école?
Qu'est-ce qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école? Parce que vous pensez que ce qu'on y apprend n'est pas suffisant ou...
Je voulais savoir quel point de vue, si vous pensez que c'est seulement des matières qu'on apprend ou s'il y a un autre côté sur lequel on n'insiste pas assez, comme vous êtes instituteur.
Oui, moi j'ai... Je ne sais pas si on peut apprendre...
Vous êtes content?
Oui.
L'enseignement en France en ce moment?
Oui. Je pense que les matières qui sont étudiées en classe...
sont utiles?
S'ils restent à la portée du temps. Utiles, entendons-nous. Tout dépend si on veut, est-ce que c'est utile pour la vie ou est-ce que c'est utile pour développer l'intelligence.
Voilà.
Les deux choses sont à considérer. Il y a des matières qui sont apprises et qui sont absolument inutiles pour la vie. J'ai appris beaucoup de choses moi-même qui me sont absolument inutiles, mais qui ont servi à former une certaine sorte d'intelligence qui sert pour autre chose, et cette fois c'est utile.
Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
Alors là, je n'ai pas fait de latin. J'étais instituteur, j'étais à l'école normale d'Orléans pendant 3 ans ici pour faire mes études, et nous ne faisions pas de latin.
Oui.
Alors je ne peux pas répondre trop pour le latin, mes enfants en ont fait un peu, mais je pense, pour moi, que c'est un exercice qui justement est un de ces exercices qui peut être utile pour une certaine formation de l'esprit, de l'intelligence, de l'esprit, oui, et permettant par la suite d'avoir une certaine formation d'esprit.
Oui.
En tant qu'apprentissage du latin, au point de vue pratique, je ne pense pas que ça serve à quelque chose.
Oui. On peut plus s'en servir maintenant.
Je ne suis pas très qualifié, évidemment, pour parler de cette question.
Qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école, selon
vous ? Alors là, il y a deux choses. Les enfants peuvent ne pas être assez courageux pour le réussir en ayant l'intelligence, ou le contraire, réussir à force de travailler. Je pense que l'enfant qui réussit facilement sans travailler beaucoup, c'est évidemment ça qui est le mieux, mais c'est assez rare tout de même. Alors l'enfant qui veut réussir, s'il n'a pas les moyens de le faire facilement, il doit travailler davantage, évidemment.
Oui. Et selon vous, jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
On vient de prolonger la scolarité jusqu'à 16 ans en France. Je pense qu'elle pourra être prolongée jusqu'à 18 ans, peut-être dans un avenir pas tellement éloigné, c'est possible. Et je pense que ça n'est pas mal.
Pour tout le monde, vous voudriez?
Oui, mais cette prolongation de la scolarité, évidemment, n'oblige pas les élèves de 16 à 18 ans à refaire les mêmes choses qu'ils avaient faites avant. Il faut trouver évidemment ce qu'ils auront à faire à partir du moment où ils auront 16 ans, par exemple.
Oui.
Ça n'est pas forcément le même enseignement qui continuera.
Et pour vous, c'est la même chose pour des garçons et pour des filles?
Oui.
Pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que d'après vous, on fait assez pour les habitants d'Orléans?
Une question embarrassante. D'abord, le « on » est indéfini.
Oui, c'est vrai.
Qui on fait assez? On parle de la municipalité, peut-être.
Ce que vous voulez.
La municipalité cherche à développer au maximum l'essor de la ville d'Orléans. Est-ce un bien qu'une ville grandisse beaucoup? Est-ce que ça n'est pas au dépend de la tranquillité de ses habitants? Alors, je ne sais pas. Je pense que à Orléans...
Vous étiez conseiller municipal.
J'ai été conseiller municipal pendant 6 ans.
Oui. Est-ce qu'ils font des choses pour les jeunes?
Ah oui, il y a beaucoup de choses en fait.
Il y a beaucoup de choses
pour
les jeunes.
Oui.
Les jeunes ne s'ennuient pas à Orléans.
Il n'y a pas... Ah, les jeunes ne s'ennuient pas, ça, je suis mal placé pour le dire.
Oui.
On a fait beaucoup de foyers culturels pour les jeunes. Là, je ne connais pas très bien la fréquentation, mais j'ai l'impression qu'il y a des jeunes, ceux qui fréquentent ces foyers, ne s'ennuient sans doute pas. Mais il y a peut-être d'autres jeunes qui ne sont pas satisfaits de cela, qui voudraient autre chose, qui s'ennuient quand même. Ça, je ne saurais pas le dire.
Oui.
Non, non.
Et on s'occupe aussi des vieux à Orléans, il y a...
Tout de même, oui. Les vieux, si ce sont des vieux comme moi qui ont une famille, on n'a pas besoin de s'occuper beaucoup d'eux. Il faut parler des vieux.
Mais ceux qui n'ont pas de famille.
On voit dans la presse, par exemple, des réunions qui sont faites pour les vieux, des repas qui sont faits pour eux dans les quartiers, des promenades qui sont organisées par des groupements qui demandent à des conducteurs bénévoles d'emmener certains vieux dans des promenades, par exemple. Mais ça, ça n'arrive que 2 ou 3 fois par an. Peut-être je pense que tous ces vieux sont sollicités pour cela quelques dimanches par an seulement, bien sûr.
Oui, oui, oui. Et quelles sont les personnes qui ont de l'influence à Orléans?
Ce sont les personnes qui ont de l'influence à Orléans. Ce sont des questions bien vagues, tout cela.
Oui, oui.
Les personnes qui ont de l'influence, c'est celles dont on parle, celles, par conséquent, dont la presse relate ce qu'ils font, alors c'est-à-dire la municipalité, le maire, et puis les présidents de chambres de commerce, etc. Ont-ils de l'influence? Je ne peux bien répondre à cette question, vous savez.
On a beaucoup parlé des événements de mai dernier. Moi, je n'étais pas en France à l'époque.
Oui.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer un tout petit peu tout ce qui s'est passé, brièvement?
Ce qui s'est passé à Orléans?
Ou en France?
Ah, en France. Alors là, il faut reprendre la presse locale de l'époque qui vous relatera les événements. Ces événements, en tout cas, ce qui est sûr, c'est
pourquoi qu'ils ont... Pourquoi ils ont eu lieu? Pourquoi?
Ah. Ils ont eu lieu parce que... La politique, à mon avis, se dégradait un peu à ce moment-là. Il y avait des revendications qui n'étaient pas satisfaites, bien sûr.
Oui.
Et alors, une certaine catégorie de gens, certaines personnes, mécontentes en même temps, à divers titres d'ailleurs, se sont jointes, se sont trouvées réunies à une circonstance, un concours de circonstances qui font que beaucoup de personnes n'étaient pas tellement satisfaites. Et finalement, ça a produit un certain remous qui n'a pas été, au départ, apprécié comme il devait l'être, sans doute, et qui s'est développé. Et finalement, ça a produit les événements que vous avez certainement connus, quand même.
Et qu'est-ce qui s'est passé à Orléans?
À Orléans, il ne s'est rien passé. Il y a eu des réunions, bien sûr. Les ouvriers, les enseignants ont fait pas mal de réunions professionnelles, n'est-ce pas?
Oui.
Se sont mis en grève, ils sont restés en grève pour une très grande majorité pendant les 15 jours de la fin mai.
Oui. Et les étudiants?
Les étudiants aussi, mais il n'y a pas eu ici, à la source, je n'y étais pas, mais à la source, il ne s'est rien passé de grave. Il y a eu des grèves des étudiants également, mais enfin je crois qu'il y a eu l'entente avec les professeurs.
Oui. C'était pas comme à Paris.
Ah non, pas du tout.
Pas eu de bagarre.
Ah non, du tout.
Rien du tout.
Ah, du tout.
Ah bon?
Absolument pas. Ou alors c'était vraiment quelque chose de peu important, la presse ne l'a pas relaté. J'en ai parlé avec des professeurs à ce moment-là, mais il ne se passait rien ou presque.
Oui. Bon. Est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans?
C'est une question qu'il faudrait poser plutôt à des ouvriers.
Non,
mais
pas forcément.
À mon avis, non.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Pas très marqué.
Il y a peut-être des Orléanais qui, m'entendant, penseraient que je ne connais pas. Je ne sais pas, mais extérieurement, ça ne se remarque pas tellement. Non.
Oui. Bon. Alors, on passe à un autre questionnaire. Y a-t-il chez vous des dictionnaires?
Oui, bien sûr.
Des dictionnaires?
Oui.
Et des encyclopédies aussi?
Oui.
Et quelles encyclopédies, s'il vous plaît? Pourriez-vous me dire, et quels dictionnaires? Vous savez les noms? Vous devez en avoir beaucoup quand même.
Non.
Dans l'instituteur,
j'ai plusieurs dictionnaires. Oui, alors,
quel genre de dictionnaire?
Des petits dictionnaires. Il y a le général ou 102 volumes. Puis les encyclopédies, ce sont des encyclopédies qui ne sont peut-être pas celles que vous pensez. Ce sont des encyclopédies de jardin, des encyclopédies de choses comme ça.
Et les dictionnaires, qu'est-ce que vous avez comme dictionnaire?
La Rousse en deux volumes, c'est celui qui me sert le plus souvent.
Oui. Et vous l'avez où dans la maison?
Dans la bibliothèque, dans la salle de séjour.
Oui. Et depuis quand l'avez-vous?
Celui-là, on a remplacé un autre que j'avais depuis toujours, oui, bien sûr.
Vous l'avez depuis que vous êtes petit?
Oui.
Vous l'avez reçu en cadeau ou en héritage?
Non,
vous l'avez
acheté? Oui, je l'ai acheté.
Vous l'avez acheté? Vous l'avez acheté à qui? Dans un magasin ou à un représentant?
Bien sûr, oui. Non,
dans un magasin.
Dans un magasin, oui.
Et qui s'en sert le plus souvent dans la maison?
Ça, je ne saurais pas dire.
Vous ou votre femme?
Oui, plutôt moi.
Plutôt vous?
Oui.
Et vous, vous en servez combien de fois par mois, par exemple? Souvent? Très souvent?
Pas très souvent, mais j'ai l'occasion de rechercher pour mon travail certains mots, par exemple, la définition de certains mots. Alors, disons une fois par jour, si vous voulez, en moyenne.
Et quand l'avez-vous regardé pour la dernière fois? Vous vous souvenez?
Hier.
Hier, justement. Et pourquoi hier?
Ah, hier, c'était pour chercher la définition d'un mot croisé, d'un mot sur les mots croisés.
Ah, oui.
Que je m'amusais à faire parce que je ne pouvais pas sortir. Alors
Oui, bien sûr. Et quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent? Vous cherchez la définition,
oui,
que vous m'avez
oui,
dit?
Oui, bien sûr, oui, la définition d'un mot, oui.
Et pas l'orthographe, par exemple?
Oh, non, c'est rare, ça, oui.
Et le... Ah, oui.
Le sens, quoi.
Alors, vous m'avez dit que vous possédiez d'autres encyclopédies du genre jardinage.
Oui.
Vous avez le Larousse ménager ou médical,
oui,
gastronomique.
Les deux. Oui, les trois.
Est-ce que vous avez des livres sur l'art de parler, la prononciation?
Non. En français, non. Oh. C'est-à-dire que dans les dictionnaires, déjà, nous trouvons, non pas l'art de parler, mais la prononciation même des mots est indiquée sur ces dictionnaires. Et puis alors, il y a par exemple des livres comme Les difficultés de la langue française. Ou...
Vous en avez?
Oui.
Ah, très bien. Et l'art d'écrire?
Non,
aussi, vous en avez?
Non.
L'art d'écrire des lettres, le bon usage de Crévis?
Non, alors à titre professionnel, parce que j'enseigne la correspondance commerciale, par exemple, alors là, ce sont des livres classiques.
Ah oui, bien sûr. Et, par exemple, vous avez un guide de politesse?
Non. Ou peut-être, alors, il faudrait...
Vous avez demandé à votre femme?
Oui, elle a dû avoir ça au moins quand nous étions jeunes.
Oui.
On ne saurait dire où il est.
Et vous, oui, c'est ça. Et est-ce que le journal que vous lisez habituellement contient-il une rubrique sur la langue?
Sur la langue, spécialement? Quelques-uns. Par exemple, un journal de télévision a une rubrique sur la langue pour critiquer justement les erreurs que font les
speakers.
Les speakers, oui.
Oui, et vous la lisez?
On la lit, oui, je la lis, bien sûr.
Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est utile.
Et faites-vous de mots croisés. Vous m'avez dit tout à l'heure vous
en faisiez.
Oui. Lesquels?
Les plus faciles. Ah, dans les journaux, oui. Oh non, je n'achète pas de revues spéciales.
Vous n'êtes pas un fanatique des mots croisés. Vous en faites combien de fois par semaine?
Oula.
Ça dépend, non?
Je n'en ai jamais fait avant l'année dernière où j'ai été arrêté pendant un mois.
À cause de votre jambe?
Oui, alors là, je... pour me distraire.
Ah oui, oui, oui. Que pensez-vous du franglais? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Indifférent?
Non, j'ai lu quelque chose récemment.
Oui.
Ces jours-ci d'ailleurs, une interview d'un professeur Martinet, qui a parlé un peu de ce franglais, qui lui prétend qu'on n'aurait pas besoin, en somme, d'apprendre beaucoup l'orthographe. Évidemment, il dit à juste titre que les Anglais ou d'autres étrangers sont avantagés sur ce point, parce que quand on ajoute une lettre à un mot, on la prononce. Quand je dis « je chante », ça s'écrit « e », puis quand on dit « elle chante » au pluriel, ça s'écrit « ent », il n'y a rien qui le dit.
Oui.
Je chante « e », les enfants chantent, il faut mettre « ent », rien ne le dit à l'oreille.
Oui.
Alors il pense, je crois, que l'orthographe devrait ne pas avoir beaucoup d'importance.
Oui.
Je ne pense pas que ce soit bien.
Et l'inclusion des mots anglais dans la langue française?
Au bout d'un certain nombre d'années, il est certain que certains mots représentant certaines choses qui sont plus courantes dans un pays ou dans l'autre arrivent à s'introduire dans le pays avec leur nom.
Mais vous êtes contre ou...
Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de raison d'être contre. C'est à moins que si on a le mot français qui désigne la même chose, pourquoi aller chercher camping si on a un autre mot, par exemple?
Oui. Y a-t-il des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Peut-être, c'est possible. La façon de parler, vous voulez dire la prononciation, la façon de s'exprimer le...
Dans tous les domaines.
Ah bon?
Par exemple, la prononciation.
Ah voilà, il y a... Alors, dans la prononciation, j'en suis un exemple, il y a des prononciations différentes selon les régions.
Oui.
Je suis... Sognon, né en Sologne, et j'ai conservé ce parler qui, on le sent bien, roule les R exactement comme en Bourgogne.
Oui.
C'est le parler de la Bourgogne, je l'ai moi aussi.
Mais ça, c'est pas vraiment les milieux sociaux, ça
c'est non,
des régions.
Non, non, oui, absolument, oui. Oui, bien sûr. Les milieux sociaux doivent influencer, évidemment, la façon de parler, ça y a aucun doute.
Oui.
Oh, oui.
Mais quelle différence, vous croyez?
Bon, ça dépend aussi du tempérament des personnes.
Oui.
Les personnes qui sont à Paris, par exemple, dans les villes, qui parlent volontiers, beaucoup. Je ne sais pas si ça dépend de leur milieu social. Tout dépend si c'est la façon de s'exprimer correctement ou non, si c'est au contraire la pensée qu'on exprime qui est différente.
Mais c'est la façon de s'exprimer.
La façon de s'exprimer.
Oui. Par exemple, vous, dans vos classes, vous avez des gens de différents milieux, je pense, non?
Oui.
Alors, ils s'expriment de la même façon ou vous voyez des différences quand même?
Oh non, le milieu, je pense que le milieu de la bourgeoisie, disons,
oui,
probablement permet de s'exprimer mieux, probablement, oui, oui je pense.
Et pourquoi?
Parce que peut-être on a attaché davantage d'importance dans la jeunesse à l'éducation de l'enfant, et peut-être a-t-il entendu parler mieux étant jeune, il a continué après.
Oui.
Je pense que ça peut être une raison.
Oui.
Est-ce que c'est bien sûr? Je n'oserais l'affirmer.
Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux, de plus en plus mal, ou ça ne change pas?
Bon, je ne vois pas d'évolution dans ça.
Vous n'avez pas d'évolution?
Non, je n'ai pas d'avis, là. Je ne vois pas.
Parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français? Quelle profession a-t-elle? Parmi vos connaissances? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle spécialement bien, qui s'exprime très bien? Pas spécialement.
Non.
Et parmi les gens que vous êtes amené à entendre parler, même sans les connaître, Qu'est-ce qui parle mieux, par exemple, à la télévision, à la radio? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souvent vous parle très bien? Vous pensez toujours, vous le voyez, vous dites, ah, je parle bien.
Évidemment, il y a des orateurs qui restent orateurs quand ils sont à la télévision ou à la radio.
Qui, par exemple?
Par exemple,
vous me donnez des noms?
Bien, écoutez, nous avons suivi en télévision un débat avant-hier entre quatre personnes très intéressantes toutes quatre et parlant très bien. Il s'agissait de Jeanneney, d'Edgar Faure, de Georges de Duhamel et de Bouloche, deux anciens ministres, deux ministres, et puis M. Duhamel qui parlait très bien.
Très très bien.
Oui. Mais si vous voulez parler de la prononciation, pas ça. De
l'impression que ça vous fait quand vous entendez quelqu'un.
Oui. Oui.
Tiens, un type, il parle très bien.
Oui. Il y en a d'autres qui ont.
Oui.
Oui, bien sûr. Je dis ça parce que je viens de les entendre. Mais.
Il y en a d'autres qui.
Par exemple.
Oui.
Ma femme écoute volontiers chaque jour une émission de radio. Je crois que c'est vers 5 heures, je ne suis pas là à ce moment-là, vers 17 heures. Il y a un intervieweur qui est très, paraît-il, très très bien, qui parle très très bien, qui arrive à faire parler ceux qui l'interviewent sans même peut-être qu'il le veuille, je crois.
C'est vrai?
Oui.
Et vous me...
Jacques Chancel, il s'appelle.
Comment il s'appelle?
Jacques Chancel.
Ah bon?
Alors lui, c'est peut-être pas l'art de parler, mais l'art de faire parler celui qui interviewe et lui faire dire ce qu'il ne voudrait peut-être pas dire. Ils se font presque des indiscrétions. Je vous dis que je ne le connais pas.
Y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du français?
Ça, c'est l'Académie française, bien sûr.
Et selon vous, est-ce très utile, utile ou sans utilité?
Non, c'est utile.
C'est utile?
Bien sûr.
Pourquoi?
Ben, la langue est tout de même le patrimoine d'un État et il ne faut pas gaspiller ce patrimoine. On voit fréquemment, enfin on l'a vu fréquemment, on a vu fréquemment publier, mettre des affiches sous les yeux des gens qui étaient vraiment d'un français. On parle par exemple, pour faire de la publicité pour une marque de rasoir, on parle d'une barbe douce, confortable. Quand on voit le mot confortable à une barbe, on se demande où est notre place de mot-là.
Et vous croyez que l'Académie française est très utile parce qu'elle
corrige... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est à elle qu'il faut se référer, évidemment, ces dictionnaires.
Oui, oui.
C'est elle qui codifie.
On dit quelquefois que la langue française se dégrade. Qu'en pensez-vous?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Je ne pense pas.
Vous ne pensez pas?
Non.
Non. Seriez-vous favorable à un contrôle des journalistes, des professeurs et des speakers à la télévision ou à la radio?
Pour le langage.
Oui. Très favorable ou...
Favorable, je pense, oui.
Pourquoi? Vous avez remarqué qu'ils font des fautes?
Ah oui. Très souvent?
Assez souvent. Ah bon?
Ils sont emportés peut-être par... les phrases qu'ils prononcent, ils arrivent souvent de...
Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Il n'empêche que s'ils se surveillaient davantage, peut-être qu'ils ne faisaient pas ces fautes, ils seraient moins intéressants. Il y a des gens qui animent une émission, par exemple, et dans le feu de l'action, évidemment, ils prononcent d'une certaine façon, ils écorchent la langue française.
Oui.
S'ils devaient faire plus attention, peut-être n'auraient-ils pas l'entrain qu'ils ont, la langue qu'ils ont, pour parler.
Et ce contrôle, comment devrait-on l'exercer?
Alors là, je ne sais pas du tout. Je suis pris de court pour répondre à cette question.
C'est difficile. On ne sait pas exactement ce qu'il faudrait faire.
Il faudrait d'abord que celui qui fait ses fautes en ait connaissance. C'est la première. Lui-même pourrait certainement se corriger s'il avait à cœur de faire bien.
Aujourd'hui, à votre avis, l'orthographe et la correction de la langue sont-ils enseignés aussi bien, mieux ou même bien que du temps où vous étiez vous-même à l'école?
Ceux qui enseignent l'orthographe et la langue, j'en suis un, l'enseignent comme ils l'enseignaient autrefois.
Oui.
Je pense qu'ils l'enseignent bien. Maintenant, Est-ce que les programmes permettent à ceux qui l'enseignent un temps suffisant pour le faire? Je n'en sais rien exactement. Je ne sais pas exactement si on doit continuer. Je pense que à un certain niveau, il faudrait continuer malgré tout à apprendre l'orthographe, par exemple. J'ai déploré, moi, dans ma profession, de voir des grands jeunes gens qui se destinaient à être instituteurs, parce que j'étais moi-même à l'école normale ici, à l'école annexe, et j'avais dans ma classe des élèves maîtres qui faisaient des stages pour apprendre la pédagogie pratique. Eh bien, ces élèves-là faisaient des fautes d'orthographe qui me désolaient, moi. Je me rendais compte qu'à partir de 12 ou 14 ans, ils n'avaient plus fait de dictée. Les étudiants prennent des notes rapidement, comme vous avez pu le faire. On ne s'occupe pas de l'orthographe. On a peut-être tort. Ou alors il faudrait reconnaître que l'orthographe n'est pas utile. Ce que je ne pense pas personnellement.
Oui. Et dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école, vous-même?
En tant qu'élève ou en tant que maître?
En tant qu'élève.
Mathématiques.
Mathématiques. Et habituellement, avez-vous quelque chose à écrire sur vous? Pour écrire sur vous?
Ah, toujours.
Toujours.
En noir et en rouge.
En noir et en rouge?
Ça, c'est pour les collections.
Oui. Stylo B. Et vous possédez un stylo à encre, quand même?
Non, j'en ai possédé, mais maintenant, non.
Non? Non. Ah, vous en avez possédé? Pourquoi vous n'en avez pas maintenant?
Parce que maintenant, les stylos bille, c'est plus pratique.
Ah, c'est plus pratique. Quel point de vue?
On ne risque pas les accidents, déjà. L'accident de l'encre qui ne serait pas.
Oh, oui, oui.
C'est facile à remplacer, c'est peu coûteux.
Oui. Et votre premier stylo à encre, c'était à quel âge?
Oh, 16 ans.
16 ans? Et à la suite de quelles circonstances? C'était en cadeau ou vous l'avez acheté vous-même?
Ça, je ne saurais plus vous dire, ça remonte à 50 ans.
Depuis quand n'avez-vous pas écrit?
Ah, depuis que vous m'avez demandé de venir là pour parler. Et avant, j'écrivais.
Et c'était pourquoi la dernière fois? Pour préparer des cours ou...
Non, c'était pour corriger les cours.
Pour
corriger les devoirs, pardon.
Vous écrivez tout le temps?
Souvent, bien sûr.
Oui. Ah, oui. Vous avez besoin d'écrire pour votre travail, bien sûr.
Oui,
corriger.
Oui.
Corriger et encore?
Et enfin, pour écrire toutes les lettres, si vous voulez, les lettres, mettons, d'affaires.
Oui.
Les lettres,
et pour
l'école,
vous écrivez vos cours ou pas?
J'écris, enfin, je prépare des fiches.
Oui. Et portez-vous habituellement sur vous un carnet, un agenda, quelque chose du même genre?
Oui, toujours, toujours, oui, bien sûr.
Quoi exactement?
Oh, pour noter beaucoup de choses, parce que la mémoire est défaillante.
Oui.
Alors j'ai un carnet sur lequel je note tout ce que j'aurai à faire.
Oui. Si vous deviez dire quelque chose à une personne habitant à 5 km de chez vous, préféreriez-vous vous déplacer ou lui écrire une lettre? Si cette personne est un de vos amis, qu'est-ce que vous feriez? Vous écririez ou vous iriez vous-même le voir?
J'irai certainement moi-même, je suis valide encore pour le faire et j'irai certainement.
Vous préférez vous en aller, vous déplacer?
Oui, 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 oui.
Pourquoi?
J'aime mieux le contact. Voyez-vous, j'ai le téléphone depuis un certain nombre d'années.
Oui.
J'ai eu du mal à me faire à cette idée de téléphoner à quelqu'un. J'aime mieux voir la personne.
Oui. Oui.
Enfin, je le fais quand même.
Et si cette personne vous est supérieure,
oui,
vous préférez quand même vous déplacer,
ah oui,
aller la voir?
Ah oui.
Avant d'écrire?
Ah oui.
Oui. Pour le contact, pour ce contact.
Oui, oui, bien sûr.
Vous aimez beaucoup,
ah oui,
les gens, vous avez,
ah oui,
parlé,
j'aime mieux,
discuté.
Oui.
Très bien.
Surtout si on attend une réponse, si on a à convaincre quelqu'un, on le voit mieux, c'est plus facile.
Oui, vous avez raison. Est-il important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Mon Dieu, oui, oui.
Très important ou peu important?
Une écriture lisible, ça a de l'importance.
Mais pourquoi?
Oh, parce que l'écriture illisible que je commence à avoir avec l'âge, et puisque j'écris beaucoup, je trouve que c'est presque impoli quelquefois.
Ah bon?
D'écrire illisiblement.
Et vos élèves?
Ça n'est pas poli.
Et Et vos élèves, ils écrivent?
Ah, ils écrivent en général mal.
En général mal?
En général mal, oui.
Ah bon?
Enfin, ils écrivent lisiblement, mais il faut leur rappeler assez souvent. Il faut leur demander de s'appliquer, par exemple. Parce que volontiers...
C'est très difficile à relire.
Oui, oui. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Enfin, je ne trouve pas que c'est une très belle écriture, en général.
Ah bon?
En moyenne.
Et selon vous, est-il important d'avoir de l'orthographe?
Oui, je trouve.
Oui.
Oui.
Pourquoi?
Du point de vue pratique, il n'y a aucune importance, mais moi je fais de l'orthographe une question de politesse. Et si vraiment l'orthographe est défectueuse, je pense que, à moins qu'on soit complètement ignorant, sans ça, c'est signe qu'on n'est pas très respectueux vis-à-vis de la personne à qui on l'adresse.
Vous pensez qu'on devrait l'étudier davantage à l'école?
Je crois qu'on l'étudie peut-être assez. On devrait peut-être l'étudier plus longtemps, alors.
Oui.
Peut-être.
Oui. Vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe? Vous trouvez que c'est difficile?
Je vois les élèves, oui, c'est difficile. C'est difficile, faut-il la réformer? Ça dépend. On ferait comme réforme, si c'était important ou peu important. Il est certain que si on réformait uniquement l'accord du participe passé, par exemple, ce n'est pas très important. Mais il y a peut-être des choses qui nous choqueraient si on écrivait des mots très très courants, d'une autre manière, moi ça me choquerait certainement,
oui.
De voir ces mots écrits d'une autre manière que celles qui doivent être écrites.
Mais en français, par exemple, il y a beaucoup de sons qui se ressemblent, qui sont écrits de façon différente. Ne croyez pas qu'on devait avoir une même manière d'écrire tous ces sons? Ce serait plus facile pour tout le monde,
par
finalement.
Exemple.
O, on a le signe O, on a E, A, U,
ah, oui.
On a O, T, on a...
Ah oui.
Comme si on avait...
Non, il y a même des mots... Enfin, je serais profondément choqué de voir écrit, par exemple, un château Théo, par exemple.
Oui, maintenant, mais...
Oui,
vous ne pensez pas qu'une réforme serait bien, par exemple, les petits-enfants, comme ça, tout le monde à la fin?
Non.
Pour écrire mieux?
Non, je ne pense pas qu'il faut l'orthographe phonétique.
Ah, vous n'êtes pas pour l'orthographe phonétique?
Oh, non, non.
Bon. Qui de vous ou de votre femme écrit habituellement à des amis communs?
Ma femme.
Ah, votre femme. Et à la famille de...
Ma femme.
Oh, bon. Pourquoi c'est votre femme toujours?
Je ne saurais trop dire, c'est l'habitude depuis... Nous sommes mariés déjà depuis 45 ans.
Oui.
Et c'est elle qui a écrit à la famille, qui a écrit aux amis, souvent. Et alors, moi j'écris pour...
Vous écrivez à votre famille quand même, c'est vous qui écrivez?
Oh non, très peu souvent, très peu souvent. J'ajoute ma signature, je le bon baiser, c'est lui.
Vous n'avez pas envie de...
Non, c'est ma femme qui écrit toujours. Je lis les lettres qu'elle écrit toujours.
Oui, oui.
Quelquefois j'en écris moi-même, mais c'est assez rare.
Bon.
Alors par contre, j'écris toutes les autres lettres.
Et les papiers administratifs?
C'est ça, non,
c'est
moi,
vous qui les remplissez,
ah, oui,
les feuilles d'impôt,
tout.
Les feuilles de sécurité sociale, les
tout.
Et votre femme...
Ah, du tout. C'est ça, ne s'en occupe pas du tout.
Parce que vous croyez que c'est pas pour les femmes, ça?
Oh là, je ne sais pas pourquoi.
Vous ne savez pas pourquoi?
Non, je ne sais pas pourquoi. Nous avons pris cette habitude.
Oui.
Eh bien, il n'y a jamais de discussion. Il n'y a jamais de discussion.
Jamais de discussion.
Non, non.
Et qui de vous ou de votre femme possède la meilleure orthographe?
Ça, c'est difficile à dire. Maintenant, je pense que c'est la même chose pour nous deux.
Oui. Et la plus belle écriture?
Tout dépend si on s'applique à écrire ou si au contraire on écrit négligemment. Je pense que ma femme écrit mieux que moi quand, dans son écriture courante.
Tous les jours,
oui.
Votre femme?
Oui.
Et qui parle dans le meilleur français?
Ah, je pense que c'est ma femme.
Bon?
Oui.
Et qui écrit dans le meilleur français?
Oh, je crois qu'il n'y a pas de différence là.
Pas de différence.
Non. Quand nous étions jeunes, certainement ma femme écrivait mieux que moi. Elle écrivait mieux français que moi, si vous voulez, enfin à la longue. Moi, j'aimais surtout les maths. Si j'aimais surtout les maths, elle aimait surtout le français.
Plutôt scientifique.
Souvent après, j'ai corrigé.
Vous dites qu'elle parle mieux que vous maintenant.
Mmh. Oui, je trouve.
En quoi vous croyez ça?
Parce que déjà, à cause de mon âge, j'arrive à chercher certaines fois des mots.
Oui.
Ce qui fait que je ne parle pas aussi bien que je parlais peut-être, que je pourrais parler, oui.
Oui. Combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois, pour le travail d'abord, à peu près?
Pour le travail lui-même, je n'écris pas particulièrement de lettres, mais pour les relations extérieures, j'en ai écrit beaucoup plus. J'en ai écrit beaucoup plus que j'en écris maintenant. J'ai été secrétaire d'une section politique ici, et à ce moment-là, j'écrivais pas mal, mais comptez trois lettres par semaine, peut-être.
Trois lettres par semaine, ça c'est pour le travail. Et hors du
pour
travail.
Pour le travail seulement, le travail, pour l'administration de la maison, si vous voulez.
Et hors du travail, comme c'est votre femme en général.
Oui, c'est elle qui fait les lettres, oui.
Vous qui signez, n'est-ce pas? Et vous conservez les lettres qu'on vous envoie?
Pendant un certain temps, oui.
Oui.
Pendant un certain temps. Je.
Mais toutes les
lettres. Non, je mets immédiatement au panier celles qui n'ont aucun intérêt après.
Oui. Et vous gardez quelques lettres?
Par exemple, j'ai conservé la vôtre qui m'annonçait votre visite jusqu'au moment où, maintenant je suis venu, je vais l'acheter après.
Oui, oui. Et les lettres de votre famille, par exemple, vous les jetez?
Les lettres de la famille, ça dépend ce qu'elles annoncent. Si ce sont des nouvelles peu importantes, si on nous écrit, par exemple, nous viendrons dans 15 jours, on garde la lettre jusqu'à ce moment-là.
Oui.
Puis après, on fait un tri tous les mois, tous les 6 mois, et puis on jette.
Et vous n'avez pas de lettres que vous avez gardées depuis des années?
Quelques-unes, si, quelques-unes.
Quel genre de lettres?
Lettres de personnalité, si vous voulez, personne.
Vous avez des lettres de personnalité? Très connu
qui
ou...
est non, pas très connu. Même j'ai eu des relations avec un certain nombre de camarades, par exemple, l'actuel doyen de la faculté des lettres de Paris, la Sfernia, c'était un de mes amis. Alors j'ai conservé quelques-unes de ses lettres, par exemple.
Oui. Et les autres que vous avez gardées, c'était de qui?
Oh, mais il y a eu, je ne sais pas, moi, il y a eu une lettre, par exemple, quand Léon Blum était besoin du conseil, alors que j'étais secrétaire de la section ici, j'ai une lettre, par exemple.
Vous l'avez toujours.
Oui, j'ai gardé quelques lettres comme ça. Et puis alors, quelques autres lettres que nous gardons, des lettres familiales nous annonçant certains...
Ah oui, les nouvelles, non?
Oui, surtout décès. Ah.
Et combien de lettres en possédez-vous environ?
Ça, je ne sais pas du tout. Ça ne rend pas.
Quand vous écrivez à vos amis, est-ce que vous faites un brouillon?
Jamais.
Jamais.
Par contre, quand j'écris à l'administration, par exemple, je le fais toujours. Quand j'écrivais à l'administration pour demander quelque chose, je conservais toujours le double, c'est mon brouillon, c'était le double, pour savoir ce que j'avais demandé.
Oui. Et vous faites attention aux fautes d'orthographe quand vous écrivez à un ami?
Je n'ai pas à y faire attention, c'est naturel.
Oui.
Mais j'y ferai attention sûrement.
Oui. Est-ce que vous vous relisez?
Ah oui, bien sûr.
Et quel instrument utilisez pour vous pour écrire? Un stylo Bic?
Oui, toujours.
Non,
oui,
toujours.
Bien sûr, oui.
Et quel type de papier? Vous écrivez sur du papier à carreaux, du papier à lignes, du papier blanc?
Un papier comme celui-là.
Blanc.
Un bloc de papier à lettres.
Oui,
un bloc de papier à lettres.
Oui.
Et là, je mets toujours sous la feuille de papier, ce qui me permet d'écrire droit. Je demande à mes élèves de le faire, je le fais moi-même.
Oui, pour que ce soit plus
c'est
propre.
Ça.
Plus
oui, c'est ça.
C'est ça. Et vous n'utilisez jamais du papier à carreaux?
Oh non.
Jamais.
Pas pour la correspondance, non. Jamais.
Personne?
Oh non.
Pourquoi?
Il n'y a aucune raison apparente.
Vous ne l'aimez pas?
Non, on lui écrit sur du papier blanc ou ça.
Oui. Ça fait
blanc non réglé. Oui.
Toujours du blanc?
Oui, toujours du blanc non réglé, oui.
Mais jamais en couleur?
Oh, jamais.
Et votre femme?
Non plus.
Non plus.
Quand nous étions jeunes, nous avions des papiers de couleur, bien sûr.
Quand vous écriviez des mots d'excuses à l'école pour vos enfants, est-ce que vous faisiez un brouillon? vous souvenez?
Quand on nous a dit bien, j'écrivais des mots d'excuse.
Oui, si vous étiez malade, vous deviez écrire une lettre.
Aux parents?
Non, non, aux professeurs, si les enfants étaient malades.
Je ne comprends pas votre question.
Quand vos enfants étaient petits.
Oui, mes enfants, mes enfants, mes propres enfants, pour mes élèves.
Non, non,
mes
enfants, oui, c'est
mais
ça.
Mais quand mes enfants étaient en classe, d'abord nous étions nous les maîtres, parce que nous n'avions pas besoin d'écrire.
Ah bon?
Et puis par la suite, eh bien, moi, au moment où mes enfants étaient adolescents, étaient au lycée, j'étais moi-même en captivité en Allemagne, donc je n'avais pas à écrire.
Oui, oui, oui.
Enfin, vous me demandez si je faisais quoi là pour cela?
Un brouillon, si vous faisiez un brouillon.
Je ne pense pas, j'aurais fait un brouillon.
Vous n'aurez pas fait un brouillon?
Non, non, tout de même.
Vous n'avez pas eu besoin?
Non.
Et vous aurez écrit sur du papier blanc?
Ah oui.
Pas sur du papier à...
Ah non, non, sur du papier blanc. Et alors là, j'aurais employé un format comme celui-là, 21-27, oui. Réglementaire.
Oui.
C'est comme l'orthographe, une question de politesse.
Oui. Et vous auriez écrit avec un stylo à billes?
Quand même, oui.
Oui.
Oui. J'ai hésité pendant longtemps, en tant qu'instituteur, à corriger ou à faire des modèles pour les élèves avec des stylos à billes. Nous leur demandions d'écrire à la plume et les modèles devaient être faits à la plume. La correction elle-même, je la faisais autrefois à l'encre rouge et après, le mode, si je puis dire, du stylo étant grandissant, j'ai pris un stylo. D'ailleurs, ça a été permis de faire beaucoup d'actes administratifs au stylo bille. Oui. À partir de ce moment-là, je n'ai pas eu de scrupules.
Non.
J'ai écrit tout au stylo. Toutes les corrections sont faites au stylo. Et même maintenant que les crayons feutres sont autorisés, je corrige tout au crayon feutre rouge. C'est plus gros, c'est plus visible.
Oui, c'est plus visible. Oui. Et quand vous devez écrire à votre supérieur dans le travail, vous ne faites pas de brouillon?
Ah, si j'ai peu de choses à dire, je n'aurais pas besoin de faire de brouillon. Par contre, au contraire, si je dois demander quelque chose d'assez important, toujours pour la même raison, pour garder le double d'abord, je ferai d'un brouillon. Parce que là encore, je considérerais comme une impolitesse de faire des fautes de français ou d'orthographe.
Oui. Oui. Et toujours avec du papier blanc.
Ah oui, bien sûr.
Alors vous n'utilisez jamais du papier à carreaux, pour n'importe quoi, jamais.
Ah, pour n'importe quoi. Si, quand ça n'est pas pour écrire. Ah oui, c'est pour écrire. Mais je me sers constamment de papier à carreaux quadrillé pour faire. Je bricole, j'installe des meubles, j'installe des plans. Alors pour faire des plans,
si vous voulez
ça.
C'est
ça, oui.
Oui. Y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre femme?
Oh non.
Non. Non. Rien du tout.
Oh, non. Pas du tout.
Et il ne vous arrive jamais de la reprendre quand elle parle?
Oh non.
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 Et pour elle, y a-t-il des choses qui l'agacent dans la façon dont vous parlez?
Oui.
Ah bon?
Oui, justement.
Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, je cherche quelquefois mes mots.
Ah bon?
Je dirais un mot pour l'autre. À midi, me servant de pissenlit, j'ai parlé du maçonnerie au lieu de pissenlit, par exemple. Alors, elle m'a dit, tu vois, ce soir, on va t'interviewer, si tu fais la même chose, ça va être beau. Voilà. La dernière scène de ménage.
Il n'y a pas eu d'autre... Il n'y a pas d'autre chose qui l'agace?
Oh non.
C'est tout. C'est pas très grave.
Non du tout. Absolument pas grave.
Alors, elle vous reprend?
Oui.
Ça.
Oui.
Alors, c'est elle qui vous reprend le plus souvent?
Ah oui. Oui, bien sûr.
Et dans la façon de parler de vos enfants, y a-t-il quelque chose qui vous agace?
Non.
Non, rien du tout.
Non.
Et vous arrive-t-il de les reprendre? Vous arrivez-t-il de les reprendre quand ils étaient plus petits?
Ah oui, bien sûr.
Pour quel genre de choses? Quel genre de faute de prononciation de...
La correction, peut-être la correction, c'est loin, c'est ce que vous me demandez là. Mon fils a 42 ans.
Et c'était vous qui les reprenez le plus souvent, votre femme?
Non, plus souvent, ma femme, plus souvent ma femme.
Plus souvent votre femme.
C'était jeune, oui.
Pourquoi ça, spécialement? Elle y tient beaucoup ou...
Non, c'est parce que elle était tout de même plus longtemps avec eux que moi.
Oui, c'est ça. Oui. La maison.
Oui, davantage. Elle exerçait également, elle était institutrice.
Y avait-il des mots que vous interdisiez de prononcer à vos enfants?
Je n'ai pas eu tellement à leur interdire. Comparativement à ce que j'entends maintenant dans la bouche de certains enfants de jeunes, même, eh bien, je n'ai pas eu, moi, à reprendre mes enfants qui n'ont jamais prononcé de mots.
Oui. Vous les auriez punis?
Oui, je les aurais certainement.
Oui.
Mais je n'ai pas eu à le faire du tout.
Non. Pas du tout.
Non, du tout.
Et maintenant, vous trouvez que les jeunes emploient des...
Je crois, oui, je crois. Il y a certains mots, je trouve, dans la bouche de certains enfants de ma famille, quelquefois, des mots qui, moi, me choquent, ça arrive.
C'est vrai?
Oui, ça arrive.
Quel genre, c'est des...
Le moindre serait « fou, moi, la paix », par exemple.
Oui.
Voilà un
oui,
mot
oui,
que
oui.
Nous n'aimons pas entendre, nous pensons que... Oui. On ne devrait pas parler comme cela.
Et pourquoi?
Parce que
c'est...
La gauche. Là encore, c'est une question de politesse et
oui.
D'éducation, quoi.
Vous trouvez que toutes les jeunes sont comme ça maintenant?
Ah non,
ou...
ah, je ne connais pas tous les jeunes. Je sais que ça, oui. Ça arrive, et là, ça c'est fréquemment, mais...
Et vos parents? Vous faisiez-il attention à la façon dont vous parliez, vous, quand vous étiez
oh non.
Plus jeune?
Ça dépend quel âge, c'est eux.
Oui, quand vous étiez petit. Vous avez des souvenirs
petit.
De...
Non. Non.
Non. On ne vous souvenait plus qui vous reprenait le plus souvent?
Quand j'étais jeune, c'était ma mère était à la maison, mon père n'y était pas souvent.
Oui.
Mes parents étaient des petits commerçants d'une petite bourgade de Sologne, par conséquent.
Et pour quel genre de choses? Pour la prononciation ou la
oh,
construction
je
de
sais
phrases
pas du tout.
Je ne savais plus.
Je ne sais pas du tout.
Et votre instituteur, il faisait attention à la façon dont vous parliez, votre professeur?
Certainement, mais. Mais non plus, je n'ai pas de souvenir précis.
Bon.